Deuxième couplet. Persistance de la magie. 1. Il se trouva qu'il n'avait aucune raison de s'inquiéter, de savoir si les manies allaient se montrer ou non. Aussi austère qu'à l'accoutumée, Henchik se présenta sur la pelouse de la Cala, qu'ils avaient arrêtée comme point de rendez-vous, en compagnie de 40 hommes. Il assura à Roland que cela serait suffisant pour ouvrir la porte dérobée, si tant est qu'elle pût encore être ouverte, à présent qu'avait disparu ce qu'il nommait le cristal noir. Le vieil homme ne fit pas mine de s'excuser d'avoir réuni moins d'hommes que prévu. Cependant, il ne cessait de tirer sur sa barbe, parfois même des deux mains.
« Pourquoi fait-il ça, père? Vous le savez ?»
demanda Jake à Callahan. Les troupes d'Henchik se dirigeaient vers l'est, à bord d'une douzaine de chariots Buka. Derrière, tirés par une paire d'ânes albinos dotés d'oreilles effroyablement longues et d'yeux roses flamboyants, venait une carriole à deux roues, entièrement bâchée de coutils blancs. Jake trouvait que le véhicule ressemblait à un gros conteneur sur roues. Henchik menait seul ce machin bizarre, tirant régulièrement d'un coup sec sur les mèches de sa barbe.
« Pour moi, ça signifie qu'il est embarrassé, » répondit Callahan.
« Je ne vois pas pourquoi. Je suis surpris qu'il en soit venu autant après le tremblement de rayons et tout le reste. »
« Ce qu'il a appris en sentant la terre trembler, c'est que certains de ses hommes avaient plus peur de ça que de lui. En ce qui le concerne, ça revient à une promesse rompue. Et pas n'importe quelle promesse, mais la parole donnée à votre Dean. Il a perdu la face. »
Et, sans aucune variation dans le ton de sa voix, poussant ainsi le garçon à un aveu qu'il n'aurait jamais fait autrement, Callahan poursuivit.
« Alors, elle est toujours vivante, votre comparse ?»«
Oui, mais elle était... »
commença Jake, avant de se plaquer une main sur la bouche. Il lança à Callahan un regard accusateur. Devant eux, sur le siège de la carriole à deux roues, Henchik balayait les alentours des yeux, alarmés, comme s'ils avaient élevé la voix. Callahan se demanda si dans cette foutue histoire, tout le monde n'avait pas le Shining, sauf lui.
« Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une histoire. C'est ma vie. »
Mais c'était difficile à croire, n'est-ce pas ? Quand on s'était vu décrit noir sur blanc comme personnage principal d'un livre portant la mention « Fiction » sur la page de garde. Doubleday et Compagnie, 1975. Un livre avec des vampires dont tout le monde savait qu'ils n'avaient jamais existé. Sauf que si. Et du moins dans certains des mondes adjacents à celui-ci. Ils existaient toujours.
« Ne me traitez pas de cette manière, »
dit Jake.
« Ne me piégez pas comme ça, pas si nous sommes tous du même côté, père. D'accord ?»«
Je suis désolé, » fit Callahan avant d'ajouter. « J'implore ton pardon. »
Jake esquissa un faible sourire et caressa Oté, qui voyageait dans la poche avant de son poncho.
« Est-ce qu'elle est ?»
Le garçon secoua la tête.
« Je ne veux pas parler d'elle pour l'instant, père. Il vaut mieux que nous évitions même de penser à elle. J'ai le sentiment, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas c'est fort, que quelque chose la cherche. Et si c'est le cas, il vaut mieux que cette chose ne nous entende pas. Or, elle le pourrait. »«
Quelque chose ?»
Jake tendit le bras pour toucher la lanche que Callahan portait autour du cou, à la cow-boy. Elle était rouge. Puis il porta furtivement la main au-dessus de son œil gauche. L'espace d'une seconde, Callahan ne comprit pas, puis son regard s'éclaira. L'œil rouge, l'œil du roi. Il se cala dans le siège de son chariot et n'ouvrit plus la bouche. Derrière eux, en silence, Roland et Eddie chevauchaient côte à côte. Ils portaient tous deux leur guna comme leur arme, et Jake avait mis les siens à l'arrière du chariot. S'il devait revenir à la Cala un jour, ce ne serait pas pour bien longtemps. Terrifié était le mot qu'avait commencé à prononcer Jake, mais c'était encore pire que ça. Terriblement lointain, terriblement étouffé, mais pourtant clair, le garçon entendait les hurlements de Susanna. Il espérait seulement qu'Eddie ne les entendait pas, lui. 2. Ainsi quittèrent-ils une ville encore harassée de fatigue et d'émotion, malgré la secousse qui l'avait frappée. L'air était assez frais aussi. Lorsqu'ils se mirent en route, ils remarquèrent les petits nuages de vapeur que dessinait leur souffle et la fine croûte de givre qui recouvrait les tiges de maïs. Un ruban de plumes planait au-dessus de la diverte étoile, comme la laine même du fleuve. Roland se dit « Nous voici au bord de l'hiver ». Au bout d'une heure à cheval, ils atteignirent le pays des Arroyos. On entendait d'autres sons que le cliquetis des harnais, le gémissement des roues, le choc mat des sabots et, de temps à autre, le braiement sardonique poussé par un des ânes albinos qui tirait la carriole. Au loin, les cris des rouillots en vol. En route vers le sud, sans doute, s'ils pouvaient encore le trouver. 10 à 15 minutes après que la terre se fût mise à monter sur leur droite, dans une enfilade de promontoires, de falaises et de mésas, ils se retrouvèrent à l'endroit même où, 24 heures plus tôt, ils avaient amené les enfants de la Cala et livré leur bataille. Là, un chemin se séparait de la route de l'Est pour serpenter vaguement vers le nord-ouest. Dans le fossé, de l'autre côté de la route, on apercevait une tranchée de terre à vif. C'était la cachette dans laquelle Roland, son cathète et les dames lanceuses de plats avaient attendu les loups. Et à propos des loups, où étaient-ils donc? Lorsqu'ils avaient quitté les lieux de l'embuscade, le sol était jonché de cadavres. Plus d'une 60aine en tout, de formes humaines venues de l'ouest sur leurs montures, des formes vêtues de pantalons gris, de capes vertes et de masques de loup aux babines retroussées. Roland mit pied à terre et rejoignit Enchik, qui descendait de la carriole avec la maladresse et la raideur que lui imposait son âge. Roland ne fit pas l'effort de l'aider. Enchik n'en attendait pas tant de lui, et s'en serait peut-être même offensé. Le pistolero le laissa secouer la lourde cape sombre pour la remettre en place, ouvrit la bouche pour poser sa question, puis se rendit compte que ce n'était pas la peine. À 30 ou 40 mètres de là, sur le côté droit de la route, se dressait une vaste colline de plants de maïs déracinés, là où hier encore, il n'y avait rien. Roland constata qu'il s'agissait d'une sorte de monument funéraire, mais bâti sans aucun souci de respect. Il n'avait pris ni le temps, ni la peine de se demander à quoi les Falken avaient occupé leur après-midi de la veille, avant d'entamer les réjouissances qu'ils étaient en train de cuver présentement dans le sommeil. Mais à présent, il avait leur ouvrage sous les yeux. Avait-il craint de voir les loups revenir à la vie? Tout en se posant la question, il comprit que c'était exactement ce qu'ils avaient redouté. C'est pourquoi ils avaient traîné les lourds corps inertes, les chevaux gris aussi bien que les loups vêtus de gris, jusque dans le champ,
qu'il les avait entassés là, bon gré mal gré, avant de les recouvrir de pieds de maïs arrachés. Et aujourd'hui, ils avaient transformé la bière en bûcher. Et si les séminons se levaient, Roland pensa qu'ils y mettraient le feu, quoi qu'il arrive, quitte à prendre le risque d'embraser la terre fertile s'étendant entre la route et le fleuve. Pourquoi pas? La saison des cultures était passée, et comme engrais, rien ne valait le feu, comme disaient les vieux. En outre, les Folken ne seraient pas tranquilles tant que cette colline n'aurait pas brûlé. Et même alors, ils ne seraient pas nombreux à s'aventurer dans les parages.
« Ralant, regarde !»
fit Eddie d'une voix tremblante, entre rage et chagrin.
« Ah, bon Dieu, regarde ça !»
Vers l'extrémité du sentier, là où Jake, Benny et les jumeaux Tevry avaient attendu jusqu'à leur sprint final pour se mettre à l'abri, on apercevait un fauteuil roulant éraflé et cabossé, dont les chromes scintillaient dans les rayons du soleil, et dont l'assise était maculée de boue et de sang. La roue gauche était sérieusement voilée.
« Pourquoi parles-tu avec tant de rage ?» demanda Enchik.
Il avait été rejoint par Cantab et une demi-douzaine d'anciens, membres de ce qu'Eddie appelait parfois intérieurement « le peuple de la cape ». Deux de ces anciens avaient l'air beaucoup plus vieux qu'Enchik lui-même, et Roland repensa à ce que Rosalita lui avait dit la nuit précédente. Bon nombre d'entre eux, presque aussi âgés qu'Enchik, essayant de gravir ce sentier en pleine nuit. Bon, il ne faisait pas noir, mais il n'était pas sûr que certains d'entre eux parviendraient à dépasser les premiers obstacles du chemin de la grotte de la porte, sans parler d'aller jusqu'au bout.
« Ils ont rapporté le siège roulant de ta femme jusqu'ici pour lui rendre hommage, à elle et à toi. Alors, pourquoi parles-tu avec tant de rage ?»«
Parce qu'il n'est pas censé être tout cabossé et qu'elle est censée se trouver dedans, »
répondit le jeune homme au vieillard.
« Vous intuitez ça, Enchik ?»«
De toutes les émotions, » « la colère est la plus inutile, »
psalmodia Enchik.
« Elle est destructrice pour l'esprit et douloureuse pour le cœur. »
Les lèvres d'Eddie s'étirèrent jusqu'à ne plus dessiner qu'une fine cicatrice blanche en dessous de son nez. Mais il réussit à retenir sa réplique. Il avança jusqu'au fauteuil balafré de Susanna. Il avait beau avoir roulé sur des centaines de kilomètres depuis qu'il l'avait déniché à Topeka, c'en était fini de ses jours de splendeur, et le contempla d'un air sombre. Lorsque Callahan s'approcha, Eddie fit signe au père de rester à l'écart. Jake fixait le point de la route où Benny avait été frappé et où il était mort. Le corps du garçon avait disparu, bien sûr, et on avait pris soin de recouvrir les traces de sang d'une couche fraîche d'Hogan. Mais Jake s'aperçut qu'il pouvait toujours distinguer les éclaboussures sombres malgré tout. Et le bras tranché de Benny, paume tournée vers le ciel. Jake revit le pas de son ami, surgissant du champ de maïs, remontant vers eux en titubant, apercevant le cadavre de son fils qui gisait là. Pendant les 5 secondes qui avaient suivi, il s'était trouvé incapable d'émettre le moindre son. Le temps qu'il aurait fallu à quelqu'un pour annoncer à Saïs Lightman que c'était une issue inespérée, que les pertes étaient dérisoires. Rien que 2 morts, un garçon et la femme d'un rancher, et un gamin avec la cheville cassée. Du gâteau, vraiment. Mais personne ne l'avait fait. Et c'est alors que Slightman, l'aîné, s'était mis à hurler.
Jake se disait que jamais il n'oublierait ce hurlement, tout comme jamais il n'oublierait la vision de Benny couché là, dans la poussière noire de sang, avec son bras arraché. À côté de l'endroit où Benny était tombé, on avait camouflé autre chose sous une couche d'ogane. Jake ne distinguait plus qu'un petit éclat métallique. Il posa un genou au sol et déterra l'une des boules de mort des loups, ces choses qu'on appelait vifs d'argent. Le modèle Harry Potter, si l'on en croyait l'inscription sur le côté de l'engin. La veille, il en avait tenu une paire entre ses mains et les avait sentis vibrer. Il avait entendu leur bourdonnement assourdi et maléfique. Celui-ci était raide mort. Jake se releva et le lança en direction du tas de maïs qui recouvrait les cadavres des loups. Il le lança avec une telle force que son bras lui fit mal. Il aurait sans doute des courbatures le lendemain, mais il s'en fichait. Il se fichait pas mal de ce qu'Enchik pensait de la colère aussi. Eddie voulait retrouver sa femme. Jake voulait retrouver son ami. Et si Eddie avait peut-être une chance d'obtenir ce qu'il voulait un jour ou l'autre, Jake Chambers ne le pourrait jamais. Parce que la mort était un cadeau chaque jour renouvelé. La mort, comme les diamants, était éternelle. Il voulait poursuivre son chemin, laisser derrière lui cette portion de la route de l'Est. Il voulait ne plus avoir à regarder le fauteuil roulant vide et cabossé de Susanna. Mais les manies avaient formé une ronde autour du champ de bataille, et Enchik priait d'une voix aiguë et saccadée qui fit mal aux oreilles de Jake. On aurait vraiment dit les hurlements d'un cochon affolé. Il s'adressait à un certain Andela, demandant un passage sûr jusqu'à cette grotte là-bas, et le succès de leur entreprise, sans mort ni folie. Jake trouva particulièrement dérangeante cette partie de la prière, car il n'avait jamais considéré comme nécessaire de prier pour sa santé mentale. Le chef demanda aussi à l'Andela de donner vie à leurs aimants et à leurs pendules. Pour finir, il pria pour le Kaven, la persistance de la magie, expression qui semblait posséder un pouvoir particulier pour ces gens. Quand il eut terminé, ils dirent tous en chœur « Andela Sam, Andela Kra, Andela Kanta » et se lâchèrent les mains. Quelques-uns d'entre eux se mirent à genoux et tinrent encore un peu palabre avec le vrai patron. Pendant ce temps, Cantab escorta 4 ou 5 des jeunes à la carriole. Ils en replièrent la bâche immaculée, révélant en dessous une série de grands coffres en bois. Des pendules de plomb et des aimants, pensa Jake, et beaucoup plus gros que ceux qu'il portait autour du cou. Ils avaient rameuté l'artillerie lourde pour cette petite aventure. Les coffres étaient recouverts de motifs, des étoiles, des lunes et des formes géométriques étranges, qui paraissaient plus cabalistiques que chrétiens. Mais Jake se rendit compte qu'il n'avait aucune raison objective de croire les manies chrétiens. Ils avaient l'air de Quakers ou d'Amish avec leurs capes, leurs barbes et leurs chapeaux noirs à bord rond. Il leur arrivait de lâcher un « tu » ou un « point » dans la conversation, mais pour ce qu'en savait Jake, ni les Quakers ni les Amish n'avaient pour passe-temps le voyage entre les mondes. D'un autre chariot, on extirpa de longues baguettes de bois poli. Elles se trouvaient enchâssées dans des fourreaux métalliques sous les coffres gravés. On appelait ces coffres des « cercles », apprit Jake. Les manies les transportaient comme s'il s'agissait de reliques traversant une ville du Moyen-Âge. Ils se mirent à graver le sentier, encore jonché de rubans, de lambeaux de tissu et de petits jouets. Des appâts pour les loups, et ils avaient sauté dessus.
Lorsqu'ils atteignirent l'endroit où Frank Thévry s'était coincé la cheville, Jake entendit résonner en pensée la voix de la ravissante sœur de cette espèce de demeurée.
« Aidez-le, s'il vous plaît, Saïd, je vous en prie !»
C'est ce qu'il avait fait. Dieu lui en était témoin. Et Benny en était mort. Jake détourna le regard en grimaçant, puis se raisonna.
« T'es un pistolero à présent. Tu dois pouvoir faire mieux que ça. »
Il se força à regarder de nouveau. La main du père Callahan se posa sur son épaule. « Fiston, tu vas bien ? Tu es affreusement pâle. »«
Ça va ?»
répondit Jake. Il sentait une boule dans sa gorge, plutôt grosse, mais il se força à l'avaler et à répéter ce qu'il venait de dire, ressassant ce mensonge pour lui-même plus que pour le père Callahan.
« Ouais, ça va. »
Callahan hocha la tête et fit passer son gouna de l'épaule gauche à la droite. Son gouna, le pauvre baluchon d'un homme de la ville peu convaincu lui-même qu'il va réellement quelque part. « Et que se passera-t-il quand nous arriverons à la grotte ?» Et si nous arrivons à la grotte ? Jake secoua la tête. Il n'en savait rien.